y a des jeunes qui veulent tout simplement pas parler français, puis c'est pas parce qu'ils ont pas essayé, c'est pas parce
J'ai jamais compris, I guess, pourquoi les gens veulent tellement comme purifier la langue.
Si on utilise ces anglicismes-là, c'est pas parce qu'on est inférieur.
Bienvenue à Bilinguiste. Ici Marie Villeneuve, bienvenue à ce dernier épisode de Bilinguiste. On arrive un peu au bout de notre réflexion et là, on va parler de la langue et de ses particularités, ses différents registres, mais aussi de la stigmatisation qui vient avec nos différents accents. Salut Suzanne Robillard, notre super sociolinguiste.
Salut Marie Villeneuve, notre super animatrice de Radio-Canada.
Suzanne, on va commencer cet épisode-là en parlant d'élitisme linguistique. On va d'abord entendre Nathalie Frenette et Caroline.
Je pense que l'élitisme linguistique, c'est de considérer qu'il y a différentes façons de parler et puis que certaines façons de parler sont plus valorisées que d'autres. Mais donc j'imagine qu'il pourrait aussi y avoir des préjugés qui sont liés face aux façons de parler, face à ça.
Pour moi, l'élitisme linguistique, à la base, c'est comme n'importe quelle autre sorte d'élitisme, right? Fait que si on pense à l'élitisme, c'est de dire qu'il y a un certain groupe ou une personne qui a certaines caractéristiques qui font en sorte que, pour des raisons sociales, on va penser que cette personne-là est à un plus haut niveau, que ce soit par rapport à son statut, par rapport à son emploi, ou par rapport à son intelligence, ou même par rapport à comment elle se comporte, tu sais, donc des gens qui vont agir de façon positive, on va les regarder de façon plus positive.
Hey Suzanne, l'élitisme linguistique, ça n'existe pas ça au Canada?
Oh, come on, Marie! Tu me pièges avec ça! C'est pas vrai!
Je fais exprès, évidemment. Oui, ça existe ici aussi, mais moi, je voudrais entendre la définition de l'élitisme linguistique de Suzanne Robillard.
Je sais pas si je le définirais de manière différente que Caro et Nathalie l'ont fait, qu'on vient d'entendre.
Ouais.
Mais pour moi, est-ce que c'est particulièrement canadien? Je dirais que non, dans le fond. Est-ce que c'est particulièrement français? Même non, parce que c'est pas... Je veux dire, l'élitisme linguistique, c'est un phénomène social dans toutes les langues, mm-hmm. dans le fond. On a beaucoup d'insécurité linguistique en français par rapport à cette idée qu'il existe un bon français et tout ça. Ben. Mais je veux dire, en anglais, par exemple, un accent... de Kentucky, par exemple, va pas être aussi valorisé qu'un accent
britannique
très standard de, ou même canadien, voire l'accent canadien est très neutre, on le dit très neutre. Je sais pas ce que ça veut dire, moi, en tant que scientifique linguistique, neutre, est-ce qu'on peut le quantifier? Je sais pas.
Ouais.
Mais bref, l'opinion publique des gens de tous les jours, ça serait que certains accents sont mieux que d'autres, certaines façons de parler sont mieux que d'autres, etc.
Ben oui.
Pour moi, ce qui est vraiment dommage là-dedans, c'est que les gens qui croient qu'il existe un français qui est mieux que d'autres et qui veulent que tout le monde partage cette façon de parler, c'est qu'ils se rendent peut-être pas compte à quel point ils ont un privilège de parler ainsi, à quel point ils ont reçu assez d'éducation, ils ont eu assez d'opportunités dans leur vie d'avoir un statut socio-économique plutôt haut. Mm-hmm. Par exemple, ils ont fait, par exemple, des études postsecondaires, peut-être, etc. Et que ces opportunités-là, c'est pas disponible à tout le monde. Et puis, parfois, une correction sur le niveau de français de quelqu'un, ça peut vraiment être une correction parce qu'on se croit meilleur que cette personne-là.
Ben oui.
On veut la remonter, mais finalement, c'est rabaissant.
Oui. Ben oui, puis ça peut faire très, très mal, hein, ça, on l'a déjà dit. Là, on va entendre Caro et Nathalie encore une fois. Ils vont nous parler de l'importance, en fait, de la maîtrise des différents registres en langue.
Je pense que quand on parle de registre de langue, justement, dans le fond, c'est la réponse pratique. elle est simple, elle est facile à comprendre quand on veut un peu répondre à ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça, l'insécurité linguistique, parce que là, on ne va pas commencer à tout parler tout croche tout le temps, puis là, mes enfants, il faut qu'ils apprennent. Fait que, souvent, ce qu'on va répondre, c'est de dire, ben oui, c'est important de comprendre qu'il y a plusieurs registres de langue. Donc, évidemment, on veut s'assurer qu'un enfant qui est à l'école, par exemple, apprenne à lire, à écrire, mais aussi à parler de façon à ce qu'il puisse être compris d'un plus grand nombre de personnes, évidemment. Donc, si moi, j'apprends le français en Ontario, puis je veux un jour aller voyager, je vais aller travailler ailleurs dans le monde en français, il faut que mon français soit moindrement compréhensible par d'autres personnes. Donc, je dois quand même apprendre un certain registre. Puis je ne veux pas le mettre élevé. Moi, je préfère, tu sais, souvent, on veut mettre les registres comme un par-dessus l'autre puis créer une hiérarchie. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que c'est plutôt comme un spectre. Donc, c'est important pour moi d'apprendre un registre qui est plus près d'un français peut-être international ou français de France ou hexagonal, comment on voudrait l'appeler, là, ça ne me dérange pas. Mais c'est d'autant plus important pour moi d'apprendre et d'être à l'aise dans un registre familier. Parce que c'est là qu'est la richesse de la culture, c'est là qu'est l'attachement du cœur à notre famille, à notre histoire et tout ça.
Je pense qu'il y a différents domaines dans lesquels différents types de français peuvent être plus utiles. Donc, par exemple, un milieu académique ou un milieu de travail, peut-être que je pense que ça peut quand même être utile pour les gens d'avoir appris à parler avec un français plus standard, juste pour qu'ils puissent utiliser leur français dans différents contextes et puis même dans différents pays ou quoi que ce soit. Je pense que ça peut être bien d'avoir la chance d'apprendre un français plus standard, d'apprendre un français qui peut être utile en milieu plus professionnel ou académique. Mais je pense que c'est aussi vraiment important de permettre l'évolution de la langue et puis de permettre aux gens de s'approprier leur propre langage au sein d'une région géographique selon ce qui les reflète.
Ça, Suzanne, ça peut paraître contraire à bien des choses qu'on a dit tantôt. Est-ce qu'il y a un danger à l'utilisation des registres, justement? C'est quoi un bon français plus standard? C'est quoi un français plus langagé? Comment on trouve un équilibre là-dedans?
Ben, c'est une super de bonne question. Et puis oui, je pense que certaines optiques, certaines perspectives sur ce qui est un registre ou comment catégoriser les registres, comme ouais. Caroline l'a dit, est-ce qu'on les met l'un par-dessus l'autre ou est-ce que c'est plutôt une gamme d'outils linguistiques et on peut s'en servir comme on en a besoin? Mais je pense pas que ça contredit la base de ce qu'on dit. Et c'est juste d'essayer d'éviter le jugement. Parce que toi, tu ne sais pas si quelqu'un qui n'a qu'un registre, comme beaucoup de jeunes franco-colombiens, parce qu'ils apprennent le français à l'école, ils n'ont que le registre plus standard. Et puis, ça fait formel pour les oreilles de gens qui sont immergés dans un contexte informel, immergés dans un contexte où le français vernaculaire est utilisé quotidiennement. Fait que, on ne peut pas juger la parole de ces gens-là parce qu'on ne connaît pas leur parcours linguistique. On ne sait pas à quel point, comme Nathalie, elle dit, « Ah, ben ça serait bien d'avoir un registre standard pour le milieu du travail, le milieu académique. Ouais, » Ben oui, ouais, ça serait bien. Ouais. Mais c'est pas tout le monde qui a l'occasion d'apprendre ce français-là. C'est pas tout le monde qui a eu la chance d'avoir assez de français dans leur milieu pour qu'ils puissent apprendre à distinguer deux registres. Ça, c'est quelque chose qui vient avec l'usage et avec la familiarité, pas seulement avec la volonté de parler le français, mais aussi apprendre les nuances qui existent entre les différents registres et savoir où utiliser quel registre. Ça, c'est quelque chose qui s'apprend juste avec l'utilisation,
avec
la socialisation.
Ça vient avec le temps, bien sûr, aussi. Et peut-être qu'on n'a pas besoin tant que ça, dans certaines situations, de changer de registre, mais c'est vrai, ça ne peut pas venir tout de suite. Ça, c'est impossible. Là, on va tomber dans quelque chose d'un peu plus croustillant. Je pense même que je pourrais dire crunchy. Suzanne, le français comme outil de revendication. On va entendre Nathalie, Caro et l'autre Nathalie.
Je pense qu'en contexte minoritaire, c'est vraiment un choix qu'on fait de parler le français. Et puis, je pense que ça, en quelque part, ça vient renforcer notre identité francophone. Donc, de devoir se battre pour parler en français et puis de choisir à tous les jours de continuer à parler en français, c'est un choix qui vient réaffirmer, je pense, notre identité francophone.
Je suis capable d'utiliser un registre plus formel de français. Je m'en sers très peu dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. Puis d'ailleurs, j'aime utiliser la langue pour choquer un peu des fois. Pour moi, ça peut être un outil de revendication aussi, de dire, ben moi, je suis francophone, puis mon français m'appartient, puis il n'y a personne d'autre qui va me dire de quoi il devrait avoir l'air, là.
je veux faire attention parce que je pense que le message de il faut faire un choix, puis quand tu parles une langue, tu t'affirmes, puis tu es en train de prendre prise, puis que si tu choisis de parler français, c'est un geste, puis tout ça. Ça, je trouve pas ça trop sain non plus, parce que en contexte minoritaire, on n'a pas le choix de parler les deux langues. C'est pas grave de parler l'anglais. Moi, je suis fière de mon bilinguisme. Je suis fière du fait que je parle les deux langues.
Il y a beaucoup de choses là-dedans, Suzanne, hein, Caro, oui. Caroline, qui dit « Oui, pour moi, des fois, je m'en sers, puis je fais un peu exprès. C'est un outil de revendication. » Puis Nathalie, à la fin, Nathalie Dion, qui disait « Mais moi, je fais attention à ça. Ça peut être délicat. » Puis Nathalie Frenette qui disait ben, « En contexte minoritaire, c'est vraiment un choix qu'on fait de parler le français. » Comment on doit voir ça? C'est vrai que ça peut être un outil de revendication, mais ça dépend peut-être aussi d'où on vient ou de notre perspective ou de nos...
Pour rassembler un peu ces trois idées-là, j'ai une petite anecdote, moi, parce que ça me fait penser à une expérience que j'ai eue, je pense, j'étais au secondaire, peut-être 9e année, 10e année. Une de mes amies, à l'époque, elle parlait le français chez eux. Et puis, son père, lui aussi, a été élevé en Colombie-Britannique par une famille francophone. Mm-hmm. Et donc, était dans le fond franco-colombien, comme d'origine.
Ouais.
Et puis, cette personne-là, elle faisait l'effort de maintenir une distinction dans son accent pour vraiment s'auto-identifier avec la francophonie britanno-colombienne et donc se distinguer peut-être de ses origines françaisoises ou québécoises.
Uh-huh.
Je me rappelle, j'ai trouvé ça comme comment es-tu capable de modifier ton accent ou de garder ton accent, parce que pour moi, c'était pas possible.
Ouais.
Et selon mon savoir maintenant, mon savoir de linguiste, je pense que c'est parce que nous, on parlait pas français chez nous en grandissant. Je parlais français avec mes grands-parents, et puis je parlais français à l'école et puis dans mes activités post-scolaires.
Ouais.
Oui, parce que j'avais pas nécessairement beaucoup de familiarité avec ce registre informel.
Ouais.
Pour moi, c'était pas disponible comme option de comme choisir entre des registres, comme j'en avais qu'un. Là, tu sais, mon parcours professionnel m'a emmenée à Ottawa pendant quelques années.
Ouais.
Je continue beaucoup de travail au sein de la communauté francophone. Fait que là, j'ai beaucoup, beaucoup plus de familiarité avec ce registre informel. La façon que je parlais à la fin de mon parcours secondaire est très, très différente de la façon que je parle aujourd'hui.
Ouais.
Simplement parce que j'avais pas ces occasions-là, j'avais pas l'atout d'avoir plusieurs contextes sociaux dans lesquels utiliser mon français. Mm-hmm. Et donc, mon registre était limité.
Ouais. Et Suzanne, est-ce que ça peut être vraiment un outil de revendication pour dire « Hey, on existe ». Est-ce que ça, c'est bien d'utiliser notre langue comme ça?
Ben oui, et puis je pense, je l'ai déjà dit, qu'à un moment donné, quand j'ai déménagé, ma grand-mère m'a dit « Ben, perds pas ton accent franco-colombien.
Ouais. »
Mais finalement, c'était comme, je lis encore cet accent franco-colombien-là, mais il sort en fonction de mes interlocuteurs. Fait que si, par exemple, on jouait un clip de moi qui faisais une entrevue avec Yann, qui lui aussi est franco-colombien, versus moi qui fais une entrevue comme, ben là, sur le podcast.
Ouais.
Ça serait un accent légèrement différent en fonction de mon interlocuteur, je m'adapte un peu à leur façon de parler.
Mm-hmm.
Fait que c'est pas comme si j'ai perdu de quoi. Non, j'ai gagné de quoi. J'ai gagné plus d'options. Mais c'est juste que ça sort seulement selon le contexte approprié pour ça. Quand j'utilise la langue pour me revendiquer, et ça l'arrive, tu sais, comme parfois je vais donner un talk à 200 personnes et puis il y en a une qui vient me parler après puis elle me dit « Ah, oh, tu parles mal ». Là, peut-être que je vais, tu sais, drum up un peu mon accent franco-colombien pour vraiment l'agacer, là, tu sais, mais c'est rare.
Mais ça dépend de notre caractère aussi. Puis je pense qu'il y a des Québécois qui pourraient faire ça en milieu minoritaire aussi pour dire il y a des francophones dans ce pays-là. C'est comme ça, on le fait
tout
tous.
À fait.
Et effectivement, on n'utilise pas nos accents de la même manière. Je sais bien que si moi, on enregistre une conversation que j'ai avec mes oncles, mes tantes au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est pas du tout le même français. Mais c'est pas le même accent, en tout cas. C'est peut-être le même français, mais c'est pas le même accent, certainement pas.
Ben, c'est ça.
Ouais.
Ben, puis l'accent, c'est vraiment emblématique de qui nous sommes.
Ben oui.
Et c'est des aspects, comme tu dis, ton aspect familial est différent de ton aspect professionnel, c'est bien normal.
Ouais.
On développe des différentes façons de parler selon le contexte.
Oui, oui. Mais tu sais, quand Nathalie dit là-dedans, il faut faire attention parce qu'elle ne veut pas envoyer un mauvais message. Quand on dit aux gens qu'il faut faire un choix, quand tu parles une langue, tu t'affirmes. Elle n'aime pas beaucoup cette idée-là. En fait, j'imagine que c'est propre à tout un chacun au final, non?
Oui, au final, et puis, je sais pas, tu sais, il faudrait inviter Nathalie pour nous en parler davantage, selon moi, mais je pense qu'on peut s'approcher vers un peu le stéréotypage linguistique si on adopte un accent qui n'est peut-être pas approprié pour une situation selon nos expériences personnelles. Ça serait peut-être jouer un peu dans ces stéréotypes-là, mais je sais pas, je veux dire, quelqu'un comme Caro qui se revendique de façon fréquente et éloquente.
Ouais.
Tu sais, si elle veut utiliser son accent comme outil pour vraiment comme drive the point home, ben qu'elle le fasse.
Ben oui, évidemment. Et encore là, c'est propre à tout un chacun, comme on disait tantôt, au final. On va entendre Nathalie maintenant nous parler de la stigmatisation des accents.
Ça fait du bien de pouvoir jaser avec des gens qui ont le même type d'accent que nous, parce que ça veut dire qu'on vient du même milieu, qu'on a certaines similarités ensemble. Mais tout comme ça peut relier les gens, ça peut aussi les diviser ou ça peut aussi faire en sorte que les gens finissent par s'aliéner ou se distancer de l'un l'autre lorsqu'ils perçoivent qu'ils sont différents. Il faut reconnaître que la stigmatisation des accents et puis les préjugés qui sont associés aux accents est une réalité. Et puis, ça l'est pour tout le monde. On a tous naturellement des préjugés. Donc, c'est juste une question d'être sensible à l'idée selon laquelle on peut juger les gens à cause de leur accent. On peut associer certaines caractéristiques sociales ou certains jugements aux gens à cause de leur façon de parler. Et puis, quand on en est conscient, je pense qu'à ce moment-là, on est capable de reconnaître lorsqu'on a des attitudes qui peuvent être dévalorisantes et puis qu'on puisse par la suite les corriger pour qu'on puisse accueillir les gens à bras ouverts pour qu'ils puissent faire partie de la communauté et puis, laisser de côté nos préjugés.
Ouais, ça, les préjugés là-dedans, ils sont très, très fréquents. Puis on les a tous, qu'on soit un peu partout dans le monde, je pense, hein, qu'on parle anglais ou français. Même en France, il y a des régions où on n'a pas le même accent. Au Québec, les accents diffèrent d'une région à l'autre. La même chose ici. Je ne sais pas d'où ça vient, cette affaire-là, Suzanne.
Ben, c'est un comportement très humain, dans le sens où je veux me retrouver en groupe social. Je veux faire partie d'un groupe. Et puis, les personnes qui sont différentes de moi, peut-être que, tu sais, je veux pas les intégrer dans mon groupe. Et là, on le sait, là, que c'est stupide comme réflexe et que diviser en groupe social selon nos caractéristiques personnelles, ça peut, comme, ça mène au racisme, ça mène au sexisme.
Ouais, ouais, ouais.
C'est pas un comportement désirable de nos jours parce qu'on comprend le fait que, tu sais, finalement, on n'est pas si différent que ça. Mais en termes d'accent, je veux dire, c'est tellement, pour beaucoup de gens, c'est difficile de modifier son accent. Je veux dire, quand on apprend une deuxième langue, on a beaucoup de mal à adapter un accent natif, par exemple, de la langue. Fait que c'est pas quelque chose qu'on peut nécessairement contrôler. Et donc, comme Nathalie Frenette l'a dit, quand on se retrouve avec des gens qui parlent comme nous, on ressent immédiatement plus de solidarité avec ces personnes-là. Et conversement, quand on se retrouve avec des gens qui parlent différemment, on a deux choix. Soit on peut faire comme Caroline le suggère, et vraiment comme s'ancrer dans son accent et puis maintenir une espèce de différence linguistique entre nous et notre interlocuteur. Ou bien, on peut essayer d'adapter un peu sa façon de parler dans la mesure du possible, si on est capable de le faire, pour ressembler à cette personne-là.
Ben,
mais même ces comportements-là, ce sont des réflexes sociaux.
Oui, exactement. Exactement. Et on le voit bien. Il y a bien des gens qui arrivent en France d'ici qui vont se mettre à parler comme les Français le font là-bas. Ou même si il y a des gens qui s'en vont, par exemple, dans certaines régions du Québec, comme à Montréal, où il y a un accent particulier, on le voit bien qu'on adopte aussi ces accents-là. Et je pense que les médias ont un rôle à jouer aussi. On les entend un peu, les accents des autres, au final, non? Dans la sphère médiatique, là, ils sont très, très peu représentés. Et je pense qu'on doit, au fond, peut-être faire tous un effort à ce sujet-là, de les entendre davantage et de s'intéresser.
Parce que la représentation dans la sphère médiatique, ça a un énorme impact positif sur les groupes minorisés. Comme par exemple, de voir quelqu'un qui parle comme toi à la radio ou qui parle comme toi à la télé, ça peut être tellement valorisant pour toi-même, ta façon de parler.
Ouais.
Et ça revient un peu à ce qu'on disait, comme il existe un espèce d'isolement des communautés minoritaires francophones dans le sens où, tu sais, moi, je suis au courant de l'existence des Francesquois, par exemple, mais les gens qui sont en contexte majoritaire, eux, sont peut-être moins au courant des petites bulles de francophones qui existent un peu partout, ou bien ils sont sous l'impression que toutes ces petites bulles-là, c'est des Québécois.
Ouais,
ce qui n'est pas nécessairement le cas, parce qu'on s'identifie plus avec les gens qui parlent comme nous, qui agissent comme nous, qui sont dans notre sphère sociale, à nous. Et donc, moi, je parle à un franco-colombien un peu différemment de comment je parle à un Québécois, par exemple.
Ouais. Le mot-clé, on l'a souvent entendu cette année, c'est diversité, je pense. Mm-hmm. Et puis, la diversité, c'est aussi ça. Ça peut être très, très large, ce concept-là, mais c'est aussi une diversité d'accent. Suzanne Robillard, c'était notre dernier. En tout cas, jusqu'ici, c'est notre dernier. Il y en aura peut-être d'autres, parce que je pense que cette conversation-là pourrait durer beaucoup plus longtemps, qu'on pourrait parler à beaucoup, beaucoup de gens encore. Alors, on souhaite une suite, Suzanne Robillard.
Et je le souhaite.
Merci beaucoup.
Merci à toi, Marie.